VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Guiriec au micro, Anne Albertson à mes côtés. Bienvenue à cette édition du vendredi 13 mars 2015. Au sommaire ce matin.
La coordination des mouvements de l'Azawad est réunie à Kidal pour des consultations sur l'accord de paix paraphé à Alger.
Les meetings consistent à écouter les peuples dans sa diversité de toutes les régions de l'Azawad, que ce soit de Tombouctou, de Gao, de Kidal, de Menaka, mais aussi de camps de réfugiés.
Lutte contre Boko Haram, l'armée nigérienne affirme avoir chassé les insurgés djihadistes de la Damawa.
Et dans le même temps, le groupe État islamique se réjouit de l'allégeance de Boko Haram et annonce l'expansion du califat en Afrique de l'Ouest.
Le fort RCA dresse un bilan positif de son opération à quelques jours de son départ.
Nous quittons Bangui, nous quittons une ville apaisée avec un processus politique en cours. Des camps de réfugiés qui sont en train de se vider, des déplacés aussi qui rentrent chez eux.
Au Tchad, la police et la société civile ne s'entendent pas sur le bilan de la manifestation d'élèves et d'étudiants de lundi.
Le policier étant un citoyen comme tout autre, quel intérêt a-t-il d'user, n'est-ce pas, son arme contre ses propres enfants, ses propres petits frères ou ses amis ?
Le porte-parole de la police tchadienne.
Trois militants anti-esclavagistes mauritaniens ont été libérés hier après avoir écopé d'une peine avec sursis. Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais avant le journal.
Lutte contre Boko Haram, l'armée nigériane affirme avoir chassé les insurgés djihadistes de la Damawa, l'un des trois états du nord-est du pays les plus durement frappés par Boko Haram. Les soldats ont aujourd'hui réussi à chasser les terroristes de Madagali, le dernier des endroits tenus par les terroristes dans la Damawa, a assuré l'armée nigériane sur son compte Twitter. Dans un autre message, l'armée a déclaré ne pas avoir subi de pertes durant la reprise de la localité située près de la frontière avec l'état de Borno au nord. Le président Goodluck Jonathan avait promis dans un entretien à La Voix de l'Amérique diffusé mercredi que les états d'Adamawa et de Yobe seraient libérés d'ici la semaine prochaine et Borno d'ici 3 semaines.
L'État islamique se réjouit de l'allégeance de Boko Haram. L'organisation djihadiste active en Irak et en Syrie a donc annoncé l'expansion du califat en Afrique de l'Ouest et parle d'une bonne nouvelle. C'est ce que rapporte l'AFP. Dans un enregistrement audio diffusé sur Internet, un homme présenté comme le porte-parole des insurgés islamistes affirme que le calife, Abou Bakr al-Baghdadi, a accepté l'allégeance de leurs frères du groupe sunnite pour la prédication et le djihad. Nom en arabe de Boko Haram. Dans un enregistrement audio diffusé sur Internet il y a moins d'une semaine, le groupe islamiste nigérian Boko Haram avait en effet annoncé son allégeance à l'État islamique.
Le fort RCA dresse un bilan positif de son opération à quelques jours de son départ. Au cours d'une conférence de presse hier, la force européenne a assuré que malgré cette satisfaction, beaucoup reste à faire. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Près d'une année après son déploiement en Centrafrique, la force européenne EUFOR RCA se dit satisfaite du travail accompli. Plusieurs réalisations civilo-militaires ont été énumérées. La sécurisation de l'aéroport Bangui-Poko et des 3e et 5e arrondissements, l'appui au déploiement des forces de la MINUSCA, l'installation d'une passerelle métallique en remplacement d'un pont affaissé depuis plusieurs années. Le général Philippe Pontiès, commandant la force EUFOR RCA.
Nous quittons Bangui, nous quittons une ville apaisée avec un processus politique en cours. Des camps de réfugiés qui sont en train de se vider, des déplacés aussi qui rentrent chez eux. Le sentiment effectivement que le devoir est accompli. Il y avait encore quelques patrouilles autour du site du Catex où la force est stationnée pour des raisons de protection et de sécurité. Et donc désormais les tout derniers contingents sont en train de préparer leur sac pour rejoindre l'Europe.
Malgré cette satisfaction, le commandement de l'EUFOR RCA note que des actions restent à mener pour la sécurisation de Bangui. Déployée en avril 2014 en appui de la MISCA et de la Sangaris, la mission de la force européenne prendra fin officiellement le 15 mars 2015. Une nouvelle force dénommée EUMAM la remplacera d'ici la fin du mois.
Au Tchad, la police nationale et les organisations de la société civile ne s'entendent pas sur le bilan de la manifestation des élèves et étudiants de lundi contre une décision rendant obligatoire le casque pour les motocyclistes. L'ONG Droits de l'Homme sans frontières, la coalition de la société civile tchadienne Trop c'est trop et le SINEX, syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur, accusent la police d'avoir tiré à balles réelles sur les manifestants faisant des morts, des allégations démenties par le porte-parole de la police tchadienne, Paul Manga.
Par un point de presse, le responsable des droits de l'homme sans frontières a donné un bilan erroné et a fait état d'arrestations arbitraires où le nombre de ces personnes interpellées est indéterminé. En tant que citoyen responsable, je tiens à vous apporter les précisions suivantes. Lors de la manifestation du lundi, qui s'est soldée malheureusement par la mort d'un étudiant fauché par un bus universitaire, je voudrais vous signifier qu'au moment où je vous parle, 53 personnes dont la plupart n'est ni élève, ni étudiants se trouvent au parquet pour répondre de leurs actes. Quant aux élèves et étudiants innocents, ils ont été relâchés. Le policier étant un citoyen comme tout autre, quel intérêt a-t-il d'user, n'est-ce pas, son arme contre ses propres enfants, ses propres petits frères ou ses amis? Face aux agissements de ces personnes mal intentionnées et ces responsables d'organisations qui se croient tout permis, nous nous réservons le droit des actions en justice. Nous rappelons à l'attention des parents d'élèves qu'il est de leur devoir de prodiguer des conseils utiles à nos enfants, à nos petits frères, car de leur comportement dépend leur avenir. Il ne sert à rien de ternir l'image d'une institution. Comme je l'avais dit, la police est d'abord au service des citoyens.
Le porte-parole de la police tchadienne, Paul Manga, dans un extrait fourni par FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena.
En Mauritanie, 3 militants anti-esclavagistes ont été libérés hier après avoir écopé d'une peine avec sursis. Claire Moragibour.
Les 3 militants, dont une femme, sont tous membres de l'IRA, l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, une ONG anti-esclavagiste. Jugés depuis le 5 février par le tribunal correctionnel de Nouakchott, les 3 militants ont été condamnés jeudi à 1 an de prison avec sursis, puis libérés. C'est ce qu'a annoncé leur entourage à l'AFP. Ils avaient été arrêtés lors d'une manifestation en novembre 2014, après l'arrestation du président de l'IRA, Biram Ouldabeyd et de plusieurs autres militants de la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. 7 co-accusés jugés en même temps que les 3 condamnés ont été relaxés. Tous avaient été arrêtés à Rosso alors qu'ils menaient une campagne pour dénoncer l'esclavage. Outre le chef d'inculpation d'appartenance à une organisation non reconnue, d'après la défense, ils avaient été accusés de rassemblement non autorisé et violence contre la force publique. Officiellement, l'esclavage a été aboli en 1981 en Mauritanie. Depuis 2007, les personnes reconnues coupables d'esclavagisme y encourent des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Néanmoins, selon des ONG, le phénomène perdure en Mauritanie.
Crise politique en Libye, des représentants du Parlement internationalement reconnu de Tobrouk demandent le report de la nouvelle session de dialogue entre partis rivales. Prévue au Maroc, ces discussions avaient pour objectif la formation d'un gouvernement d'unité nationale en Libye. Selon des participants cités par l'AFP, l'émissaire des Nations Unies, Bernardino León, est déjà arrivé au Maroc dans la soirée. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eddy Sango.
Au Sénégal, les régulateurs du secteur télécom, la RTP, a mis en demeure la Sonatel suite à des dysfonctionnements des messageries instantanées Viber et WhatsApp. L'opérateur est exposé à des sanctions pécuniaires. Sonatel, l'opérateur sénégalais, se défend et soutient que ces difficultés d'accès sont dues au succès de ses applications et non à la mauvaise qualité de son réseau. Avec la chute des cours des matières premières, les pays africains sont confrontés à un dilemme. Comment continuer à tirer profit de ces matières sans décourager les investissements par des taxes trop élevées? La question est à l'ordre du jour à la Mining Indaba, conférence internationale minière regroupant quelques 7000 délégués au Cap en Afrique du Sud. Selon l'AFP, les mêmes thèmes seront débattus dans une contre-conférence convoquée par les ONG qui dénoncent les pillages des ressources africaines par les multinationales. Enfin, la Commerzbank AG a décidé de payer 1450 milliards de dollars de pénalités aux autorités fédérales américaines et à celles de l'État de New York pour éviter des poursuites judiciaires pour violation des sanctions américaines contre divers pays, y compris l'Iran. La banque allemande, qui se tire ainsi d'affaires, a accepté la responsabilité des violations en question et promis d'instaurer des contrôles internes plus stricts. Des allégations similaires avaient valu en 2012 à la plus grande banque européenne, la HSBC, 1900 milliards de dollars d'amende aux États-Unis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Égypte tient aujourd'hui une conférence économique internationale pour attirer les capitaux étrangers. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, et britannique, Philip Hammond, ont annoncé leur venue au dernier moment. Il faut dire que l'initiative permettrait au président Abdel Fattah al-Sissi, critiqué sur les droits de l'homme, à asseoir son pouvoir alors qu'il mène une âpre lutte contre les djihadistes. Le secrétaire d'État américain John Kerry va profiter de cette escale à Sharm el-Sheikh, en Égypte, donc, pour s'entretenir avec le président palestinien Mahmoud Abbas et le roi Abdallah de Jordanie. Les discussions porteront notamment sur la crise financière de l'autorité palestinienne, a indiqué hier un diplomate américain cité par l'AFP. Lutte contre l'État islamique en Irak. La ville de Tikrit est assiégée par des milliers de soldats irakiens qui attendent de mener l'assaut contre le groupe djihadiste. L'État islamique s'est emparé de larges pans du territoire irakien et syrien depuis juin et y a déclaré un califat. Mais la coalition internationale mise sur pied par les États-Unis frappe depuis août en Irak, appuyant des offensives terrestres de l'armée irakienne et de milices chiites qui sont parvenues à reprendre du terrain, après plusieurs semaines de débandade. Les victoires proclamées par la coalition sont illusoires et ne représentent que la reprise de petits pouces de terre en Irak, assure cependant l'État islamique. Ici aux États-Unis, la tension reste vive à Ferguson où des policiers ont essuyé des tirs hier lors d'une manifestation. Les policiers du Missouri et du comté de Saint-Louis sont chargés depuis hier soir du maintien de l'ordre en cas de nouvelles protestations. Quelques 150 personnes s'étaient rassemblées mercredi soir devant le poste de police local pour saluer la démission de Thomas Jackson, le chef de la police de Ferguson. Il faut dire que la police municipale est accusée de brutalité suite au décès de Michael Brown, un jeune noir non armé tué par un policier blanc l'été dernier. Une traque était toujours en cours hier soir pour retrouver le ou les tireurs ayant blessé deux policiers hier.
Enfin, Hillary Clinton était en couverture du magazine Time hier, mais avec deux petites cornes de diable sur la tête. Difficile de dire si c'était fait exprès, mais le M du mot Time, situé en haut de la page, donnait à la probable candidate à la présidentielle de 2016 un air étrangement démoniaque.
Allez, on passe au sport avec Bagassi Koura. D'abord, ces deux résultats en Coupe d'Afrique des moins de 20 ans au Sénégal. L'Afrique du Sud a été battue par le Mali 2-1 et la Zambie s'est inclinée face au Ghana 1-2. Par ailleurs, Bagassi, le Zimbabwe a été exclu des qualifications au Mondial 2018 en Russie.
Oui, et c'est en raison d'une dette non acquittée envers son ancien sélectionneur brésilien, José Claudine Giorgini di Valinos. C'est ce qu'a annoncé jeudi la FIFA. La fédération zimbabwéenne, la ZIFA, avait été condamnée en août 2012 par la FIFA à payer une dette exceptionnelle à son sélectionneur de 2008. Selon son porte-parole, la ZIFA, la fédération zimbabwéenne, donc, doit à Valinos 67 000 dollars, soit environ 63 000 euros provenant des salaires et d'indemnités du temps de son passage à la tête de l'équipe du Zimbabwe. Le porte-parole a estimé la dette de la ZIFA à 4 millions de dollars et a appelé le gouvernement à soutenir la sélection nationale.
Le Bosnien Vahid Halilhodžić a été désigné jeudi sélectionneur de l'équipe nationale du Japon.
Oui, il remplace le Mexicain Javier Aguirre, limogé en février dernier. C'est ce qu'a annoncé la Fédération japonaise de football citée par l'AFP. Le technicien âgé de 62 ans, qui avait mené l'Algérie en 8e de finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire, a été officiellement nommé lors du bureau exécutif de la Fédération japonaise de football.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie pour cette édition du vendredi 13 mars 2015. Place au dossier du jour, première escale ce matin, le Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad est réunie à Kidal en présence de délégations africaines et européennes pour le MNLA, le HCUA et le MAA. L'objectif est de mener des consultations sur l'accord pour la paix et la réconciliation paraffé à Alger. Timothée Dodangma y a joint Mohamed Assalé de la cellule de communication de la coordination des mouvements de l'Azawad.
Les meetings consistent à écouter les peuples dans sa diversité, dans ses mots, et surtout par des délégations qui sont venues de toutes les régions de l'Azawad, que ce soit de Tombouctou, de Gao, de Kidal, de Menaka, mais aussi des camps de réfugiés du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie. Il y a aussi la diaspora de la Libye, de l'Arabie Saoudite, de la France. Le président de la CMA, son excellence Bilal Akhsharif, est revenu un peu sur tout ce qui s'est passé depuis l'ouverture, sur les obstacles, les difficultés, la compréhension de la communauté internationale des dossiers.
Quelles sont déjà quelques préoccupations exprimées dans les différentes interventions?
La première des choses, c'est que la population réclame surtout de s'identifier dans l'accord à travers ce qu'est l'Azawad dans sa globalité politique et territoriale. C'est qu'ici, les statuts politiques de l'Azawad reviennent toujours. On sent que les populations ne sont pas en train de compromettre tout ce qui a été négocié depuis l'accord de Ouagadougou, qui est la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Mali. Mais je parle de savoir ce qu'est l'Azawad dans sa globalité territoriale, politique et identitaire. Avant de rentrer dans les détails du développement, dans les détails qui disent ce que doivent être les collectivités territoriales ou ce que doivent être les gestions internes au niveau du développement des forages et tout ça, pour eux, aujourd'hui, il faut d'abord leur dire ce qu'ils sont en tant qu'entité territoriale, politique et identitaire de la zone. C'est cela, surtout la réclamation principale des populations. Ensuite, il y a aussi cette question des garanties qui ne disent pas exactement comment ça va se produire si l'une des parties viole.
En quel terme se pose la question de l'autonomie dans ces discussions?
Il y a des gens qui parlent d'autonomie large. Ils disent que on ne peut pas aller en dessous d'une autonomie large. Il y en a aussi qui reviennent toujours sur la question de la fédération et qu'ils pensent que l'État malien ne peut plus être en mesure de sous-traiter la sécurité de cette région-là et que pour arrêter tout ce qui se passe aujourd'hui, le terrorisme qui menace tout le monde, qui a créé la faillite économique et tout ça dans la région, ne saurait être combattu que par un État de proximité, peut-être pourquoi pas un État fédéral qui est plus proche de la zone et qui pourra lutter afin que la gouvernance soit adaptée en termes d'administration, en termes de sécurité et pouvoir contrer la menace terroriste qui n'est pas qu'une menace qui s'introduit en termes sécuritaires mais aussi en termes de développement parce qu'aujourd'hui ici il y a des gens qui adhèrent à ce groupe djihadiste terroriste, c'est parce qu'il n'y a pas de travail, c'est parce qu'il n'y a pas d'administration, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de services de proximité adaptés.
Mohamed Assalé de la cellule de communication de la coordination des mouvements de l'Azawad.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En République démocratique du Congo, le chef de la mission onusienne, la MONUSCO, Martin Kobler, appelle à un dialogue stratégique permanent et à un pacte de confiance avec le gouvernement de la RDC pour décanter la situation. La MONUSCO a annulé sa participation aux opérations des troupes congolaises contre les rebelles des FDLR suite au refus de Kinshasa de retirer deux généraux accusés par la mission onusienne de violation des droits de l'homme. Écoutons Martine Kobler.
Le point de départ, c'était la nomination des deux généraux et nous avons maintenant un dialogue avec le gouvernement pour régler le problème. Point de départ, c'était vraiment l'initiative du gouvernement. On avait une planification excellente des opérations contre les FDLR qui maintenant est vraiment bloquée. On était forcé de couper le soutien selon notre politique des droits de l'homme. Nous partageons les mêmes objectifs, de protéger les droits de l'homme. C'est l'objectif du gouvernement, c'est l'objectif de la MINUSCO, je suis très très confiant, on va résoudre le problème ici. C'est très important de maintenant rétablir la confiance. Il faut avoir un pacte de confiance avec le gouvernement. Pas d'être ici avec les actions unilatérales de la part des FRDC. Et la MINUSCO est un peu bloquée et paralysée maintenant dans ses actions contre les FDLR. On veut le faire ensemble avec les FRDC parce que nous avons beaucoup à offrir qui peut soutenir les actions qui sont menées par les FRDC dans leur combat contre les FDLR. Ce dialogue stratégique, c'est important d'avoir, c'est ce que j'ai proposé aussi au gouvernement, un dialogue stratégique permanent avec le gouvernement sur ces divergences. C'est la question des droits de l'homme. Ce sont les rapports du Bureau conjoint des droits de l'homme. Il faut avoir un dialogue. Ici, je dois admettre, la MINUSCO peut vraiment améliorer la transparence en ce qui concerne la politique avec le gouvernement.
Le chef de la MINUSCO, Martin Kobler, dans un extrait fourni par notre station partenaire, Top FM à Kinshasa. L'Organisation mondiale de la santé et le Programme alimentaire mondial des Nations unies ont annoncé un nouveau partenariat dans les pays où sévit le virus Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Le nouveau dispositif vise à aider à ramener à zéro le nombre de cas de la fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest, tout en mettant en place une infrastructure d'alerte et de riposte pour de futures crises. On écoute Elisabeth Beers, porte-parole du PAM.
Ce nouveau partenariat, en fait, concrétise une coopération très importante, va la renforcer, va permettre à l'OMS qui apporte son expertise médicale de mieux soigner, de mieux atteindre les personnes qui ont besoin de leur aide et d'être beaucoup plus efficace. Ça va nous permettre de monter en puissance et de consolider les progrès qui ont été faits dans la lutte contre Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Donc bien sûr, aider l'OMS à travailler, à traiter, mais aussi à prévenir l'infection, à lutter également contre le retour du virus ou de son extension, également à permettre au personnel de santé de travailler au mieux, et ça va permettre aussi de jeter les bases d'une future collaboration dans le même style s'il y a d'autres urgences de santé un jour dans le monde.
Le PAM va veiller à ce que les agents de l'OMS qui traquent les Ebola et les ressources nécessaires, entre autres le matériel informatique ou les téléphones.
Le programme alimentaire mondial, c'est et une énorme machine logistique au service de la communauté internationale et aussi des experts en télécommunications. Donc nous allons pouvoir renforcer l'aide dans ces deux domaines. Nous avons déjà une très forte présence opérationnelle en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. On apporte un support logistique aussi bien au personnel médical que non médical, par air, par mer et par transport routier. Et les experts logistiques du PAM sont là et vont augmenter justement le réseau logistique pour assurer un approvisionnement ininterrompu d'équipements de protection du personnel médical et également de tout le matériel médical qui est vital pour traiter les cas d'Ebola. Nous avons également renforcé notre corridor humanitaire aérien pour permettre de relier de façon extrêmement efficace les trois pays de la région pour transporter non seulement les travailleurs de santé mais aussi l'aide médicale et l'aide matérielle. Et jusqu'à présent, le programme alimentaire mondial a transporté 9000 passagers à travers ce service aérien humanitaire.
Elisabeth Beers, porte-parole du PAM. En Afrique, la production de semences améliorées a longtemps été la chasse gardée des groupements étatiques, laissant peu de place aux petits agriculteurs. Ce monopole a jusque-là constitué un obstacle sérieux à la production alimentaire, mais une nouvelle initiative espère changer tout cela en améliorant l'accès des paysans aux semences améliorées. Jean-Roger Billon.
Edouard Mabaya a grandi au Zimbabwe dans une famille de 10 enfants. Son père était un ouvrier sur des chantiers de construction et sa mère s'occupait de leur pâturage. L'introduction des semences améliorées a changé la vie de la famille Mabaya.
C'était un moment où de nouvelles variétés venaient juste d'arriver au Zimbabwe. Les petits agriculteurs les ont vite adoptées, ce qui a accru la production. Et avec l'argent gagné, mes parents ont été en mesure de nous envoyer à l'école.
En fait, tous les 10 enfants de la famille ont pu franchir le cap de l'université. Mabaya est aujourd'hui chercheur à l'université Cornell à New York, travaillant sur un projet agronomique. Son espoir est que celui-ci va donner à d'autres petits agriculteurs la même chance que ses parents ont eu. Edouard Mabaya coordonne le African Seed Access Index, le TASAI, lancé ce jeudi et qui surveille la filière des semences sur le continent pour faciliter aux petits exploitants l'accès aux semences améliorées. Pendant longtemps utilisées seulement en Occident, celles-ci ont mis du temps à prendre ancrage en Afrique. La plupart des agriculteurs ont toujours eu recours aux vieilles techniques de conservation. Pour Georges Bergewa de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, en termes de productivité, les semences améliorées sont une aubaine pour les petits paysans.
La différence est comme le jour et la nuit. Si vous regardez certaines de ces variétés traditionnelles, le potentiel de rendement est très faible. Par exemple, le maïs, la plupart des agriculteurs peuvent obtenir une tonne ou une tonne et demie ou plus. Mais lorsqu'ils utilisent les variétés améliorées, elles résistent aux maladies. Certaines d'entre elles brave même la sécheresse et vous pouvez obtenir 5 à 6 tonnes par hectare.
Les semences améliorées sont une excellente opportunité pour sortir de la pauvreté en Afrique. Les agriculteurs sont confrontés à des défis auxquels ils n'avaient pas à faire face il y a 10 ans. L'industrie africaine des semences a donc encore un long chemin à parcourir selon Mabaya, mais le continent n'a pas le droit de s'interdire l'accès à la même technologie agricole que le reste du monde. En tout état de cause, ce serait un pas vers l'autosuffisance alimentaire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ignorer le changement climatique a des conséquences économiques bien réelles. C'est la substance du message du secrétaire d'État américain John Kerry hier à un forum tenu ici à Washington. Alors que les États-Unis et d'autres puissances mondiales se préparent à la conférence mondiale de cette année à Paris sur la question. Les précisions de Lionel Gaima.
Jouer avec l'avenir de la Terre alors que le résultat est connu est plus qu'irresponsable. C'est tout simplement immoral, a martelé le chef de la diplomatie américaine.
It is a risk that no one should take.
C'est un risque que personne ne devrait prendre. Nous devons faire face à la réalité. Il n'y a pas de planète B. Dans un discours hier au Centre mondial de l'énergie du Conseil Atlantique, M. Kerry a souligné que la fréquence croissante des événements climatiques extrêmes, tels que la sécheresse, les inondations généralisées et des ouragans, mènera à des perturbations qui affecteront la sécurité d'emploi.
We can expect disruptions to the global agricultural sector.
Nous pouvons nous attendre à des perturbations du secteur agricole mondial qui menacent la sécurité d'emploi pour des millions d'agriculteurs et sapent la sécurité alimentaire pour des millions de familles. Les recherches prédisent que le changement climatique pourrait causer une baisse de 2% du rendement des cultures de base comme le riz, le blé et le maïs par décennie, a fait remarquer le secrétaire d'État Kerry.
Consider what that means for millions of farmers around the world.
Pensez à ce que cela signifie pour des millions d'agriculteurs dans le monde et l'impact inflationniste que cela aura sur les prix alimentaires. La solution réside dans une bonne politique de l'énergie, a expliqué le secrétaire d'État américain en encourageant les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolienne. C'est là une question que les puissances mondiales discuteront lors de la conférence des Nations Unies de décembre dans le but de parvenir à un accord cadre international sur les émissions de dioxyde de carbone.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, Island Music de la la bonne musique des îles. Zouk, soca, merengue, reggaeton, reggae. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire. Les droits des femmes ont-ils véritablement évolué? À cette question posée à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-58-92-85-40. C'est le 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Morgane Guiriec au micro, Adalberton à mes côtés. Un grand merci à toute la rédaction. Ainsi va le monde aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Afrique, Morgane Guiriec au micro, Anne Albertson à mes côtés. Bienvenue à cette édition du vendredi 13 mars 2015. Au sommaire ce matin.
La coordination des mouvements de l'Azawad est réunie à Kidal pour des consultations sur l'accord de paix paraphé à Alger.
Les meetings consistent à écouter les peuples dans sa diversité de toutes les régions de l'Azawad, que ce soit des Tombouctou, des Gao, des Kidal, des Menaka, mais aussi des camps de réfugiés.
Lutte contre Boko Haram, l'armée nigérienne affirme avoir chassé les insurgés djihadistes de l'Adamawa.
Et dans le même temps, le groupe État islamique se réjouit de l'allégeance de Boko Haram et annonce l'expansion du califat en Afrique de l'Ouest.
Le fort RCA dresse un bilan positif de son opération à quelques jours de son départ.
Nous quittons Bangui, nous quittons une ville apaisée avec un processus politique en cours. Des camps de réfugiés qui sont en train de se vider, des déplacés aussi qui rentrent chez eux.
Au Tchad, la police et la société civile ne s'entendent pas sur le bilan de la manifestation d'élèves et d'étudiants de lundi.
Le policier étant un citoyen comme tout autre, quel intérêt a-t-il d'user, n'est-ce pas, son arme contre ses propres enfants, ses propres petits frères ou ses amis?
Le porte-parole de la police tchadienne.
Trois militants anti-esclavagistes mauritaniens ont été libérés hier après avoir écopé d'une peine avec sursis. Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais avant le journal.
Lutte contre Boko Haram, l'armée nigériane affirme avoir chassé les insurgés djihadistes de l'Adamawa, l'un des trois États du nord-est du pays les plus durement frappés par Boko Haram. Les soldats ont aujourd'hui réussi à chasser les terroristes de Madagali, le dernier des endroits tenus par les terroristes dans l'Adamawa, a assuré l'armée nigériane sur son compte Twitter. Dans un autre message, l'armée a déclaré ne pas avoir subi de pertes durant la reprise de la localité située près de la frontière avec l'État de Borno au nord. Le président Goodluck Jonathan avait promis dans un entretien à La Voix de l'Amérique diffusé mercredi que les États d'Adamawa et de Yobe seraient libérés d'ici la semaine prochaine et Borno d'ici 3 semaines.
L'État islamique se réjouit de l'allégeance de Boko Haram. L'organisation djihadiste active en Irak et en Syrie a donc annoncé l'expansion du califat en Afrique de l'Ouest et parle d'une bonne nouvelle. C'est ce que rapporte l'AFP. Dans un enregistrement audio diffusé sur Internet, un homme présenté comme le porte-parole des insurgés islamistes affirme que le calife, Abu Bakr al-Baghdadi, a accepté l'allégeance de leurs frères du groupe sunnite pour la prédication et le djihad. Nom en arabe de Boko Haram. Dans un enregistrement audio diffusé sur Internet il y a moins d'une semaine, le groupe islamiste nigérian Boko Haram avait en effet annoncé son allégeance à l'État islamique.
Le fort RCA dresse un bilan positif de son opération à quelques jours de son départ. Au cours d'une conférence de presse hier, la force européenne a assuré que malgré cette satisfaction, beaucoup reste à faire. Le point avec Félix Yepassis-Zembrou.
Près d'une année après son déploiement en Centrafrique, la force européenne EUFOR RCA se dit satisfaite du travail accompli. Plusieurs réalisations civilo-militaires ont été énumérées. La sécurisation de l'aéroport Bangui-Poko et des 3e et 5e arrondissements, l'appui au déploiement des forces de la MINUSCA, l'installation d'une passerelle métallique en remplacement d'un pont affaissé depuis plusieurs années. Le général Philippe Pontiès, commandant la force EUFOR RCA.
Nous quittons Bangui, nous quittons une ville apaisée avec un processus politique en cours. Des camps de réfugiés qui sont en train de se vider, des déplacés aussi qui rentrent chez eux. Le sentiment effectivement que le devoir est accompli. Il y avait encore quelques patrouilles autour du site du CATEX où la force est stationnée pour des raisons de protection et de sécurité. Et donc désormais les tout derniers contingents sont en train de préparer leur sac pour rejoindre l'Europe.
Malgré cette satisfaction, le commandement de l'EUFOR RCA note que des actions restent à mener pour la sécurisation de Bangui. Déployée en avril 2014 en appui de la MISCA et de la Sangaris, la mission de la force européenne prendra fin officiellement le 15 mars 2015. Une nouvelle force dénommée EUMAM la remplacera d'ici la fin du mois.
Au Tchad, la police nationale et les organisations de la société civile ne s'entendent pas sur le bilan de la manifestation des élèves et étudiants de lundi contre une décision rendant obligatoire le casque pour les motocyclistes. L'ONG Droits de l'Homme sans frontières, la coalition de la société civile tchadienne Trop c'est trop et le SINEX, syndicat national des enseignants chercheurs du supérieur, accusent la police d'avoir tiré à balles réelles sur les manifestants faisant des morts, des allégations démenties par le porte-parole de la police tchadienne, Paul Manga.
Par un point de presse, le responsable des droits de l'homme sans frontières a donné un bilan erroné et a fait état d'arrestations arbitraires où le nombre de ces personnes interpellées est indéterminé. En tant que citoyen responsable, je tiens à vous apporter les précisions suivantes. Lors de la manifestation du lundi, qui s'est soldée malheureusement par la mort d'un étudiant fauché par un bus universitaire, je voudrais vous signifier qu'au moment où je vous parle, 53 personnes dont la plupart n'est ni élève, ni étudiants se trouvent au parquet pour répondre de leurs actes. Quant aux élèves et étudiants innocents, ils ont été relâchés. Le policier étant un citoyen comme tout autre, quel intérêt a-t-il d'user, n'est-ce pas, son arme contre ses propres enfants, ses propres petits frères ou ses amis? Face aux agissements de ces personnes mal intentionnées et ces responsables d'organisations qui se croient au permis, nous nous réservons le droit des actions en justice. Nous rappelons à l'attention des parents d'élèves qu'il est de leur devoir de prodiguer des conseils utiles à nos enfants, à nos petits frères, car de leur comportement dépend leur avenir. Il ne sert à rien de ternir l'image d'une institution. Comme je l'avais dit, la police est d'abord au service des citoyens.
Le porte-parole de la police tchadienne, Paul Manga, dans un extra fourni par FM Liberté, notre station partenaire N'Djamena.
En Mauritanie, 3 militants anti-esclavagistes ont été libérés hier après avoir écopé d'une peine avec sursis. Claire Moragibour.
Les 3 militants, dont une femme, sont tous membres de l'IRA, l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, une ONG anti-esclavagiste. Jugés depuis le 5 février par le tribunal correctionnel de Nouakchott, les 3 militants ont été condamnés jeudi à 1 an de prison avec sursis, puis libérés. C'est ce qu'a annoncé leur entourage à l'AFP. Ils avaient été arrêtés lors d'une manifestation en novembre 2014, après l'arrestation du président de l'IRA, Biram Ould Abeid et de plusieurs autres militants de la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. 7 co-accusés jugés en même temps que les 3 condamnés ont été relaxés. Tous avaient été arrêtés à Rosso alors qu'ils menaient une campagne pour dénoncer l'esclavage. Outre le chef d'inculpation d'appartenance à une organisation non reconnue, d'après la défense, ils avaient été accusés de rassemblements non autorisés et violences contre la force publique. Officiellement, l'esclavage a été aboli en 1981 en Mauritanie. Depuis 2007, les personnes reconnues coupables d'esclavagisme y encourent des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Néanmoins, selon des ONG, le phénomène perdure en Mauritanie.
Crise politique en Libye, des représentants du Parlement internationalement reconnu de Tobrouk demandent le report de la nouvelle session de dialogue entre partis rivales prévue au Maroc. Ces discussions avaient pour objectif la formation d'un gouvernement d'unité nationale en Libye. Selon des participants cités par l'AFP, l'émissaire des Nations Unies, Bernardino León, est déjà arrivé au Maroc dans la soirée. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Eddy Sango.
Au Sénégal, les régulateurs du secteur télécom, la RTP, a mis en demeure la Sonatel suite à des dysfonctionnements des messageries instantanées Viber et WhatsApp. L'opérateur est exposé à des sanctions pécuniaires. Sonatel, l'opérateur sénégalais, se défend et soutient que ces difficultés d'accès sont dues au succès de ses applications et non à la mauvaise qualité de son réseau. Avec la chute des cours des matières premières, les pays africains sont confrontés à un dilemme. Comment continuer à tirer profit de ces matières sans décourager les investissements par des taxes trop élevées? La question est à l'ordre du jour à la Mining Indaba, conférence internationale minière regroupant quelques 7000 délégués au Cap en Afrique du Sud. Selon l'AFP, les mêmes thèmes seront débattus dans une contre-conférence convoquée par les ONG qui dénoncent les pillages des ressources africaines par les multinationales. Enfin, la Commerzbank AG a décidé de payer 1450 milliards de dollars de pénalités aux autorités fédérales américaines et à celles de l'État de New York pour éviter des poursuites judiciaires pour violation des sanctions américaines contre divers pays, y compris l'Iran. La banque allemande, qui se tire ainsi d'affaires, a accepté la responsabilité des violations en question et promis d'instaurer des contrôles internes plus stricts. Des allégations similaires avaient valu en 2012 à la plus grande banque européenne, la HSBC, 1900 milliards de dollars d'amende aux États-Unis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Égypte tient aujourd'hui une conférence économique internationale pour attirer les capitaux étrangers. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, et britannique Philip Hammond ont annoncé leur venue au dernier moment. Il faut dire que l'initiative permettrait au président Abdel Fattah al-Sissi, critiqué sur les droits de l'homme, à asseoir son pouvoir alors qu'il mène une âpre lutte contre les djihadistes. Le secrétaire d'État américain John Kerry va profiter de cette escale à Sharm el-Sheikh, en Égypte, donc, pour s'entretenir avec le président palestinien Mahmoud Abbas et le roi Abdallah de Jordanie. Les discussions porteront notamment sur la crise financière de l'autorité palestinienne, a indiqué hier un diplomate américain cité par l'AFP. Lutte contre l'État islamique en Irak, la ville de Tikrit est assiégée par des milliers de soldats irakiens qui attendent de mener l'assaut contre le groupe djihadiste. L'État islamique s'est emparé de larges pans du territoire irakien et syrien depuis juin et y a déclaré un califat. Mais la coalition internationale mise sur pied par les États-Unis frappe depuis août en Irak, appuyant des offensives terrestres de l'armée irakienne et de milices chiites qui sont parvenues à reprendre du terrain, après plusieurs semaines de débandade. Les victoires proclamées par la coalition sont illusoires et ne représentent que la reprise de petits pouces de terre en Irak, assure cependant l'État islamique. Ici aux États-Unis, la tension reste vive à Ferguson où des policiers ont essuyé des tirs hier lors d'une manifestation. Les policiers du Missouri et du comté de Saint-Louis sont chargés depuis hier soir du maintien de l'ordre en cas de nouvelles protestations. Quelques 150 personnes s'étaient rassemblées mercredi soir devant le poste de police local pour saluer la démission de Thomas Jackson, le chef de la police de Ferguson. Il faut dire que la police municipale est accusée de brutalité suite au décès de Michael Brown, un jeune noir non armé tué par un policier blanc l'été dernier. Une traque était toujours en cours hier soir pour retrouver le ou les tireurs ayant blessé deux policiers hier.
Enfin, Hillary Clinton était en couverture du magazine Time hier, mais avec deux petites cornes de diable sur la tête. Difficile de dire si c'était fait exprès, mais le M du mot Time, situé en haut de la page, donnait à la probable candidate à la présidentielle de 2016 un air étrangement démoniaque.
Allez, on passe au sport avec Bagassi Koura. D'abord, ces deux résultats en Coupe d'Afrique des moins de 20 ans au Sénégal. L'Afrique du Sud a été battue par le Mali 2-1 et la Zambie s'est inclinée face au Ghana 1-2. Par ailleurs, Bagassi, le Zimbabwe a été exclu des qualifications au Mondial 2018 en Russie.
Oui, et c'est en raison d'une dette non acquittée envers son ancien sélectionneur brésilien, José Claudine Giorgini di Valinos. C'est ce qu'a annoncé jeudi la FIFA. La fédération zimbabwéenne, la ZIFA, avait été condamnée en août 2012 par la FIFA à payer une dette exceptionnelle à son sélectionneur de 2008. Selon son porte-parole, la ZIFA, la fédération zimbabwéenne donc, doit à Valinos 67 000 dollars, soit environ 63 000 euros provenant des salaires et d'indemnités du temps de son passage à la tête de l'équipe du Zimbabwe. Le porte-parole a estimé la dette de la ZIFA à 4 millions de dollars et a appelé le gouvernement à soutenir la sélection nationale.
Le Bosnien Vahid Halilhodžić a été désigné jeudi sélectionneur de l'équipe nationale du Japon.
Oui, il remplace le Mexicain Javier Aguirre, limogé en février dernier. C'est ce qu'a annoncé la Fédération japonaise de football citée par l'AFP. Le technicien âgé de 62 ans, qui avait mené l'Algérie en huitième de finale de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire, a été officiellement nommé lors du bureau exécutif de la Fédération japonaise de football.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec en votre compagnie pour cette édition du vendredi 13 mars 2015. Place au dossier du jour, première escale ce matin, le Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad est réunie à Kidal en présence de délégations africaines et européennes. Pour le MNLA, le HCUA et le MAR, l'objectif est de mener des consultations sur l'accord pour la paix et la réconciliation paraphé à Alger. Timothée Donangmaï a joint Mohamed Assalé de la cellule de communication de la coordination des mouvements de l'Azawad.
Les meetings consistent à écouter les peuples dans sa diversité, dans ses mots, et surtout par des délégations qui sont venues de toutes les régions de l'Azawad, que ce soit de Tombouctou, de Gao, de Kidal, de Menaka, mais aussi de camps de réfugiés, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie. Il y a aussi la diaspora de la Libye, de l'Arabie Saoudite, de la France. Le président de la CMA, son excellence Bilal Akhsharif, est revenu un peu sur tout ce qui s'est passé depuis l'ouverture, sur les obstacles, les difficultés, la compréhension de la Cour internationale du dossier.
Quelles sont déjà quelques préoccupations exprimées dans les différentes interventions?
La première des choses, c'est que la population réclame surtout de s'identifier dans l'accord à travers ce qu'est l'Azawad dans sa globalité politique et territoriale. C'est qu'ici, les statuts politiques de l'Azawad reviennent toujours. On sent que les populations ne sont pas en train de compromettre tout ce qui a été négocié depuis l'accord de Ouagadougou, qui est la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Mali. Mais elles parlent de savoir ce qu'est l'Azawad dans sa globalité territoriale, politique et identitaire. Avant de rentrer dans les détails de développement, dans les détails qui disent ce que doivent être les collectivités territoriales ou ce que doivent être les gestions internes au niveau du développement des forages et tout ça, pour eux, aujourd'hui, il faut d'abord leur dire ce qu'ils sont en tant qu'entité territoriale, politique et identitaire de l'Azawad. C'est cela, surtout la réclamation principale des populations. Ensuite, il y a aussi cette question des garanties qui ne disent pas exactement comment ça va se produire si l'une des parties viole.
En quel terme se pose la question de l'autonomie dans ces discussions?
Il y a des gens qui parlent d'autonomie large. Ils disent que on ne peut pas aller en dessous d'une autonomie large. Il y en a aussi qui reviennent toujours sur la question de la fédération et qu'ils pensent que l'État malien ne peut plus être en mesure de sous-traiter la sécurité de cette région-là et que pour arrêter tout ce qui se passe aujourd'hui, le terrorisme qui menace tout le monde, qui a créé la faillite économique et tout ça dans la région, ne saurait être combattu que par un État de proximité, peut-être pourquoi pas un État fédéral qui est plus proche de la zone et qui pourra lutter afin que la gouvernance soit adaptée en termes d'administration situation en termes de sécurité et pouvoir contrer la menace terroriste qui n'est pas qu'une menace qui s'introduit en termes sécuritaires, mais aussi en termes de développement. Parce qu'aujourd'hui, ici, il y a des gens qui adhèrent à ce groupe djihadiste terroriste, c'est parce qu'il n'y a pas de travail, c'est parce qu'il n'y a pas d'administration, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de services de proximité adaptés.
Mohamed Assalé de la cellule de communication de la coordination des mouvements de l'Azawad.
La Voix de l'Amérique, 24h sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En République démocratique du Congo, le chef de la mission onusienne, la MONUSCO, Martin Kobler, appelle à un dialogue stratégique permanent et à un pacte de confiance avec le gouvernement de la RDC pour décanter la situation. La MONUSCO a annulé sa participation aux opérations des troupes congolaises contre les rebelles des FDLR suite au refus de Kinshasa de retirer deux généraux accusés par la mission onusienne de violation des droits de l'homme. Écoutons Martin Kobler.
Le point de départ, c'était la nomination des deux généraux et nous avons maintenant un dialogue avec le gouvernement pour régler le problème. Point de départ, c'était vraiment l'initiative du gouvernement. On avait une planification excellente des opérations contre les FDLR qui maintenant est vraiment bloquée. On était forcé de couper le soutien selon notre politique des droits de l'homme. Nous partageons les mêmes objectifs. De protéger les droits de l'homme. C'est l'objectif du gouvernement, c'est l'objectif de la MONUSCO. Je suis très très confiant. On va résoudre le problème ici. C'est très important de maintenant rétablir la confiance. Il faut avoir un pacte de confiance avec le gouvernement. Pas d'être ici avec les actions unilatérales de la part des FRDC. Et la MONUSCO est un peu bloquée et paralysée maintenant dans ses actions contre les FDLR. On veut le faire ensemble avec les FRDC parce que nous avons beaucoup à offrir qui peut soutenir les actions qui sont menées par les FRDC dans leur combat contre les FDLR. Ce dialogue stratégique, c'est important d'avoir, c'est ce que j'ai proposé aussi au gouvernement, un dialogue stratégique permanent avec le gouvernement sur ces divergences. C'est la question des droits de l'homme. Ce sont les rapports du Bureau conjoint des droits de l'homme. Il faut avoir un dialogue. Ici, je dois admettre, la MONUSCO peut vraiment améliorer la transparence en ce qui concerne la politique avec le gouvernement.
Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, dans un extrait fourni par notre station partenaire, Top FM à Kinshasa. L'Organisation mondiale de la santé et le Programme alimentaire mondial des Nations unies ont annoncé un nouveau partenariat dans les pays où sévit le virus Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Le nouveau dispositif vise à aider à ramener à zéro le nombre de cas de la fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest, tout en mettant en place une infrastructure d'alerte et de riposte pour de futures crises. On écoute Elisabeth Beers, porte-parole du PAM.
Ce nouveau partenariat, en fait, concrétise une coopération très importante, va la renforcer, va permettre à l'OMS, qui apporte son expertise médicale, de mieux soigner, de mieux atteindre les personnes qui ont besoin de leur aide et d'être beaucoup plus efficace. Ça va nous permettre de monter en puissance et de consolider les progrès qui ont été faits dans la lutte contre Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Donc, bien sûr, aider l'OMS à travailler, à traiter, mais aussi à prévenir l'infection, à lutter également contre le retour du virus ou de son extension, également à permettre au personnel de santé de travailler au mieux, et ça va permettre aussi de jeter les bases d'une future collaboration dans le même style s'il y a d'autres urgences de santé un jour dans le monde.
Le PAM va veiller à ce que les agents de l'OMS qui traque l'Ebola et les ressources nécessaires, entre autres le matériel informatique ou les téléphones.
Le programme alimentaire mondial, c'est et une énorme machine logistique au service de la communauté internationale et aussi des experts en télécommunications. Donc nous allons pouvoir renforcer l'aide dans ces deux domaines. Nous avons déjà une très forte présence opérationnelle en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. On apporte un support logistique aussi bien au personnel médical que non médical, par air, par mer et par transport routier. Et les experts logistiques du PAM sont là et vont augmenter justement le réseau logistique pour assurer un approvisionnement ininterrompu d'équipements de protection du personnel médical et également de tout le matériel médical qui est vital pour traiter les cas d'Ebola. Nous avons également renforcé notre corridor humanitaire aérien pour permettre de relier de façon extrêmement efficace les trois pays de la région pour transporter non seulement les travailleurs de santé mais aussi l'aide médicale et l'aide matérielle. Et jusqu'à présent, le programme alimentaire mondial a transporté 9000 passagers à travers ce service aérien humanitaire.
Elisabeth Beers, porte-parole du PAM. En Afrique, la production de semences améliorée a longtemps été la chasse gardée des groupements étatiques, laissant peu de place aux petits agriculteurs. Ce monopole a jusque-là constitué un obstacle sérieux à la production alimentaire, mais une nouvelle initiative espère changer tout cela en améliorant l'accès des paysans aux semences améliorées. Jean-Roger Billon.
Edouard Mabaya a grandi au Zimbabwe dans une famille de 10 enfants. Son père était un ouvrier sur des chantiers de construction et sa mère s'occupait de leur pâturage. L'introduction des semences améliorées a changé la vie de la famille Mabaya.
C'était un moment où de nouvelles variétés venaient juste d'arriver au Zimbabwe. Les petits agriculteurs les ont vite adoptées, ce qui a accru la production. Et avec l'argent gagné, mes parents ont été en mesure de nous envoyer à l'école.
En fait, tous les 10 enfants de la famille ont pu franchir le cap de l'université. Mabaya est aujourd'hui chercheur à l'université Cornell à New York, travaillant sur un projet agronomique. Son espoir est que celui-ci va donner à d'autres petits agriculteurs la même chance que ses parents ont eue. Edouard Mabaya coordonne le African Seed Access Index, le TASAI, lancé ce jeudi et qui surveille la filière des semences sur le continent pour faciliter aux petits exploitants l'accès aux semences améliorées. Pendant longtemps utilisées seulement en Occident, celles-ci ont mis du temps à prendre ancrage en Afrique. La plupart des agriculteurs ont toujours eu recours aux vieilles techniques de conservation. Pour Georges Bergewa de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, en termes de productivité, les semences améliorées sont une aubaine pour les petits paysans.
La différence est comme le jour et la nuit. Si vous regardez certaines de ces variétés traditionnelles, le potentiel de rendement est très faible. Par exemple, le maïs, la plupart des agriculteurs peuvent obtenir une tonne ou une tonne et demie au plus. Mais lorsqu'ils utilisent les variétés améliorées, elles résistent aux maladies. Certaines d'entre elles brave même la sécheresse et vous pouvez obtenir 5 à 6 tonnes par hectare.
Les semences améliorées sont une excellente opportunité pour sortir de la pauvreté en Afrique. Les agriculteurs sont confrontés à des défis auxquels ils n'avaient pas à faire face il y a 10 ans. L'industrie africaine des semences a donc encore un long chemin à parcourir selon Mabaya, mais le continent n'a pas le droit de s'interdire l'accès à la même technologie agricole que le reste du monde. En tout état de cause, ce serait un pas vers l'autosuffisance alimentaire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ignorer le changement climatique a des conséquences économiques bien réelles. C'est la substance du message du secrétaire d'État américain John Kerry hier à un forum tenu ici à Washington. Alors que les États-Unis et d'autres puissances mondiales se préparent à la conférence mondiale de cette année à Paris sur la question. Les précisions de Lionel Gaymard.
Jouer avec l'avenir de la Terre alors que le résultat est connu est plus qu'irresponsable. C'est tout simplement immoral, a martelé le chef de la diplomatie américaine. C'est un risque que personne ne devrait prendre. Nous devons faire face à la réalité. Il n'y a pas de planète B. Dans un discours hier au Centre mondial de l'énergie du Conseil Atlantique, M. Kerry a souligné que la fréquence croissante des événements climatiques extrêmes, tels que la sécheresse, les inondations généralisées et des ouragans, mènera à des perturbations qui affecteront la sécurité d'emploi. Nous pouvons nous attendre à des perturbations du secteur agricole mondial qui menacent la sécurité d'emploi pour des millions d'agriculteurs et sapent la sécurité alimentaire pour des millions de familles. Les recherches prédisent que le changement climatique pourrait causer une baisse de 2% du rendement des cultures de base comme le riz, le blé et le maïs par décennie, a fait remarquer le secrétaire d'État Kerry. Pensez à ce que cela signifie pour des millions d'agriculteurs dans le monde et l'impact inflationniste que cela aura sur les prix alimentaires. La solution réside dans une bonne politique de l'énergie, a expliqué le secrétaire d'État américain en encourageant les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolienne. C'est là une question que les puissances mondiales discuteront lors de la conférence des Nations Unies de décembre dans le but de parvenir à un accord cadre international sur les émissions de dioxyde de carbone.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, Island Music, de la bonne musique des îles. Zouk, soca, merengue, reggaeton, reggae. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire. Les droits des femmes ont-ils véritablement évolué? À cette question posée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-58-92-85-40. C'est le 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Morgane Guiriec au micro, Adèle Burton à mes côtés. Un grand merci à toute la rédaction. Ainsi va le monde aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.